Give me an F. Give me a U. Give me a C. Give me a K. What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur.
On va y arriver. Les bébés dinosaures qui sont avec vous comme chaque... Oula, non, on n'y arrive pas. Hein. Comme chaque dimanche... Comme chaque dimanche sur les ondes de Canal Sud 92.2 MHz. Ouais, si je commence à avoir des parasites entre le cerveau et la langue, ça va plus du tout.
C'est pas que ça commence, c'est que ça continue.
Et pour une heure et demie de rock des années 70. On est calé ? Oui, non, on est calé. Nous sommes calés. Est-ce que nos disques sont calés ? C'est une autre question. Je crois que j'en ai un.
Ah oh bah je te fais confiance, oui.
Allez, oh bah écoute, dans ce cas-là, un petit Lynyrd Skynyrd, ça peut pas faire de mal par où ça passe. Ah.
Thank you.
Et voilà, plein de wawa, plein de roucoulements de guitare. Lynyrd Skynyrd de Needle and Spoon, c'était sur leur deuxième album, Second Helping, celui où il y a Sweet Home Alabama. Et bon, Needle and Spoon, musique de drogué, évidemment.
Eh bien, on va continuer avec Rocky Erickson, ce qui est, ce qui est tout à fait, comment dire, adéquat quand on parle de drogue.
Alors lui, ça se traduit, c'est plus dans sa musique que chez Skynyrd, ouais.
Ah oui, clairement, oui. C'était peut-être pas les mêmes drogues non plus, hein. Donc on va retrouver Rocky Erickson parce que je me suis laissé dire que notre ami Croon de la Foire des Ténèbres va bientôt faire un spécial Rocky Erickson.
Oh oh.
Il me tarde d'entendre ça, à vrai dire.
Oui, ça va être sûrement documenté.
Ah oui, voilà, vous en apprendrez beaucoup plus qu'en nous écoutant à nous. Hein, ça. Mais quand même, c'est pour Rocky, on peut préciser. On va s'écouter le premier 45 tours qu'il a sorti dans sa carrière solo, en fait. Donc peu de temps après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, là, dans lequel il a passé 2-3 ans, 3 ans et demi, un truc comme ça. Apparemment, alors là, j'avoue que les détails de son histoire, je les avais oubliés, mais il a été chopé pour la détention d'un joint de drogue, semble-t-il. Il a été, il a plaidé la folie pour éviter la prison, donc il a été interné dans une structure relativement légère, mais il s'est évadé. Il s'est fait rechoper et là ils l'ont foutu dans une structure beaucoup plus rude, pour un temps beaucoup plus long, où on l'a traité avec des électrochocs et des tas de produits encore plus dangereux que les drogues qu'il prenait en fait. Donc ça l'a pas arrangé, il est sorti de là, paranoïaque, persuadé d'être un alien. Et c'est ces obsessions-là qui vont le poursuivre toute sa carrière. Il venait des Certains Floor Elevator, c'était quand même un gars qui avait un tube énorme, Gonna Miss Me, et puis d'autres morceaux assez connus. Et il a quand même été récupéré donc, pour sa carrière solo par sans doute un pote à lui, ou un gars en tout cas qu'il connaissait de l'époque du Certain Floor Elevator, c'est Doug Sam. Ah oui. Et son premier 45 tours, donc, en 75, c'était sur le label Mars Records, qui, était, qui appartenait à Doug Sam, et qui n'a sorti pratiquement que ça apparemment. Et c'était une version de Two Headed Dog et de Starry Eyes. Je pense qu'on a déjà écouté cette version primitive de Two Headed Dog, mais pas Starry Eyes. C'est un autre morceau qui reprendra différentes reprises tout au long de sa carrière solo, qui sera ensuite très longue et très erratique quand même. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. On va s'écouter donc cette version de Starry Eyes en 1975 par Rocky Erickson sur le label de Doug Sam et produit par Doug Sam aussi. When I
alone, I hear and feel you. I wish that I could reach right out and touch you. But knowing you're the one to greet me and meet me to alone in the dark, maybe. Starry eyes, how can I get to you? My true little starry eyes, what can I say or do?
Starry Eyes, Rocky Erickson, effectivement, c'est une chanson bien connue.
Ah, oh, c'est standard. Après, dans sa carrière solo.
Alors, attends, il y a quelque chose qui.
Oui, je m'entends pas là, mais.
Il y a quelque
chose. Allô, allô.
Voilà.
Il y a quelqu'un.
Non, bonsoir. C'est bon, c'est bon. On oui. T'entendait à l'antenne, mais moi, je t'entendais pas parce que j'avais un bouton que j'avais oublié d'enlever.
Moi, je m'entends pas trop fort non plus.
Hop,
mais,
je t'en remets plus si tu veux.
Tu sais bien que je n'ai pas ta voix de stentor. Qu'est-ce que je disais? Que oui, dans sa carrière solo, Rocky Erickson finalement a écrit assez peu de morceaux parce que c'est tendu sur des décennies et c'était souvent les mêmes morceaux qu'il recyclait. Mais par contre, c'est quasiment tous des chefs-d'œuvre, quoi. Bref, on y reviendra tout à l'heure sur Rocky Erickson.
Allez, on va s'écouter un peu les Outlaws pour écouter un groupe de rock sudiste autre que Lynyrd Skynyrd. Et je vois que tu as porté un autre disque des Outlaws.
Oui.
Bon, je tire le premier avec. Ah, OK, Coral, c'est celui qui tire le premier qui gagne.
Ouais, mais moi, j'ai le morceau le plus long, je suis sûr.
Donc, ça s'appelle Take It Any Way You Want It. Et c'est sorti de l'album Playing to Win. Ah, les Outlaws. C'est donc, je sais pas, leur énième album. C'est déjà la fin des années 70. Peut-être que les auditeurs vont vouloir savoir la date. Est-ce que je vais pouvoir la trouver? Ça reste du suspense, un suspense insoutenable, insoutenable pour moi aussi. Eh ben, je peux pas te dire. Hop, ouais, non, mais ça, c'est le merch. J'ai pas besoin du merch, merci quand même. 1960-18, voilà. Ouais. Et ouais, alors qu'ils ont commencé, je sais pas, peu après Lynyrd Skynyrd, je pense.
74-75, ouais, par là, voilà. Oui, le premier album, je sais plus, on vérifiera tout à l'heure.
Bon, allez, on a fini de vous faire poireauter, voici les Outlaws. Take it any way you want it. Be your own superstar. We'll be right back. c'est qu'ils enchaînent les fourbes. Voilà, take it any way you want it, par les Outlaws. La fin, ça avait un petit côté Freebird compressé, quoi.
Ah bah tout à l'heure, on aura quelque chose qui ressemble à du Freebird, mais décompressé, quoi.
Ouais.
C'était leur cinquième album, si on compte l'album live. Et dans le premier, daté bien de 75.
Le Playing to Win, tu veux dire ?
Celui-là, là, oui, ouais. 78. Ouais. Et on continue jusque dans les 90. Hein. Enfin, bon, avec des petits breaks. Je me demande s'il n'y a pas une reformation des années 2010 aussi. Mais bon, ça peut-être pas, c'est peut-être pas la peine de trop creuser.
Donc, oui, la loi a dû finir par les rattraper. Hein.
C'est ça. Là, déjà, ça se sent un peu hein, que quand même la production est un petit peu plus, soft, on va dire.
Ouais, c'est un morceau assez péchu quand même. Il y a des guitares partout. Hein.
Attends le suivant, des Outlaws, pour tout à l'heure. Bref, on va revenir sur Ace Frehley. Tu sais que une de mes missions pour rendre hommage à Ace Frehley, c'est de repasser tous les morceaux qu'il a écrits pour Kiss. Ceux qu'il a écrits tout seul. Là, par exemple, dans Hauteur des Nails, il y a le morceau Coming Home, co-signé avec Paul Stanley. Bon, celui-là, on va laisser de côté. On s'est écouté Strange Ways la semaine dernière. Mm-hmm. Et là, on va s'écouter un morceau qui sera dans les playlists de Kiss pendant très longtemps. Parasite.
Ah.
Et celui-là aussi a été écrit par Ace Frehley. C'était donc en 74, le deuxième album de Kiss. Parasite, écrit par Ace Frehley, le guitariste solo, qui ne chante pas encore. Hein. Il chantera beaucoup plus tard.
Parasite! Oula, je sens des démangeaisons déjà.
Ah, bah oui, c'était Kiss, donc sur leur deuxième album, un morceau d'Ace Frehley.
Eh bien écoute, on va s'écouter un groupe un peu moins connu que Kiss, le groupe japonais Blues Creation. C'est ceux qui ont fait ce fabuleux album qui s'appelle Demon and Eleven Children. Ouais, écoute, en tout cas personne n'avait envie de leur piquer le titre. Hein.
C'est sûr.
On s'est déjà passé plusieurs...
Oui,
plusieurs
c'est vaguement quelque chose. Mais il me tarde de réécouter.
Il y avait un guitariste fou, pour nous ça suffit. Hein. C'est sorti, je ne sais plus, 72 ou par là, 71, Blues Creation, 71 tu vois. Et on va s'écouter un morceau de plus de l'album, celui-ci s'appelle Sorrow. Thank you. Blues Creation, donc un groupe japonais un peu cinglé. Quand ça passait à la musique, ma foi, c'est tout à fait agréable, je trouve.
Alors, quand on parle cinglé, Rocky Erickson arrive tout de suite sur les platines.
Encore.
Parce que là, c'est un morceau dont on s'écoutera une reprise tout à l'heure. Mmh. Mais je reste dans ses productions des débuts. C'est son deuxième EP solo, a priori. Et lui, il était sorti sur Sponge Records, qui était en fait un label français fondé par Philippe Garnier.
Par qui ?
Philippe Garnier.
Ah ouais. Mmh.
Qui n'a pas sorti non plus beaucoup d'autres choses. Il avait des fans quand même qui l'ont un peu aidé à démarrer sa carrière solo, on va dire ça comme ça. Là, il réenregistrait Two Headed Dog, une deuxième version. Alors, celle-là, je suis sûr qu'on l'a écoutée. Il faudra que je vérifie quand même si on a écouté celle de 75. Et puis, il y avait trois autres morceaux, si je me souviens bien. Deux autres morceaux. Il y avait I Have Always Been Here Before. Voilà. Mm-hmm. Et le morceau Click Your Fingers, Applauding the Play. C'est un des grands morceaux, je trouve, de Rocky Erickson, parmi tous les grands morceaux qu'il a écrits dans sa carrière solo. C'est la même année qu'il va sortir aussi Bermuda, qui va avoir un certain impact. Là. Mais par contre, là, c'était sur Virgin, donc déjà une plus grande diffusion, et puis Rhino aux États-Unis. Il y avait Bermuda et The Interpreter qui sont sortis aussi en 77. Mais un petit peu après, semble-t-il, dans la chronologie, un petit peu après le EP de Sponge Records. Donc voici le morceau Click Your Fingers, Applauding the Play, Rocky Erickson en 77, et tout à l'heure, on s'en écoutera une reprise.
Flashes out of the way. If you click your fingers, I'm flooding love.
Mark Erickson.
Voilà, c'était le 45 tours qu'il a, alors, le EP de 77, donc sur Sponge Records, qu'il a sorti sous le nom de Rocky Erickson and the Blib Alien. Et plus tard, il fondera The Aliens, mais semble-t-il, le guitariste Duane, Duane Alaxen, qui était le guitariste au son quand même assez particulier des Aliens, était déjà présent là dans cette version de primitive du groupe, disons. Donc ça, c'était sur Sponge Records en 77, Rocky Erickson.
Cool. Et bien, maintenant, un petit 45 tours pourri. Le groupe Clover, qui était, je crois, un groupe américain qui faisait du folk rock, on va dire, plus ou moins. Et c'était pas désagréable. On s'écoute un morceau qui s'appelle Shotgun. Je me souviens plus si c'est la reprise du Shotgun connu. Probablement pas. Clover, donc, un 45 tours trouvé au hasard des brocantes. Est-ce qu'on en était Clover, donc non, c'était bien la reprise du morceau connu Shotgun, dont par exemple il existe une reprise par Vanilla Fudge, beaucoup moins sobre que celle-ci, qui accentuait sur le côté, bon, on peut dire country rock. Clover, donc.
Clairement, oui. Et bien, on revient sur The Outlaws, donc, qui, à leur début en tout cas, ont été un des bons groupes de rock sudiste. Avec le premier album et le morceau qui les a fait connaître, qui s'appelait Green Grass and High Tides, et qui était quand même une sorte de Freebird, ou d'hommage à Freebird de Lynyrd Skynyrd. Alors il y a un article sur ce morceau, sur Wikipédia, là, mais il n'y a aucune, strictement aucune référence à Freebird, ni par ceux qui écrivent l'article, ni par les extraits d'interview des membres des Outlaws. Ils ne font aucune référence à Freebird, mais quand même,
ouais.
Quand même, c'est sorti, leur album en 75 est sorti après celui de Lynyrd Skynyrd. Le morceau commence très tranquillement aussi, et puis ça s'envole, et puis il y a des déchirades de guitare totalement flamboyantes à la fin. Bon, c'est voilà, le même schéma que Freebird. C'est un peu le même schéma aussi au niveau du line-up, enfin en tout cas c'était des line-up à trois guitares, hein. Lynyrd Skynyrd pratiquement tout le temps, et les Outlaws à leur début en tout cas, c'était des line-up à trois guitares, et on sent qu'il fallait les utiliser, les guitaristes. Et ils ne se faisaient pas prier. Le morceau s'appelle Green Grass and High Tides, en fait c'est un hommage aux Rolling Stones, qui ont sorti...
Il y avait un album, effectivement, une compile des meilleurs titres des Rolling Stones qui s'appelait...
Big Hits, High Tide and Green Grass, c'était dans l'ordre inverse. Mm-hmm. Donc, pourquoi ont-ils choisi ça? Bon, pour rendre hommage aux Stones, puis parce qu'ils trouvaient que ça sonnait bien, j'imagine. Mais par contre, ça ne parle pas particulièrement d'herbe ou de drogue, comme beaucoup de gens l'ont cru. C'est, en tout cas, c'est un hommage plutôt aux rockstars disparus, et notamment Jimi Hendrix et Janis Joplin, qui, me semble-t-il, sont morts à un mois d'intervalle ou quelque chose comme ça. C'est ce que expliquait en tout cas un des membres du groupe à l'époque. Voilà, donc cela dit, ils avaient l'habitude d'avoir des paroles, tu sais, très terre à terre, qui racontaient la vie là, du campagnard du sud. Et tandis que là, c'est beaucoup plus poétique, on va dire, un peu imagé. On comprend pas tout ce qu'ils racontent, quoi, en fait. Par contre, les guitares, alors là, on comprend tout de suite. Green Grass and High Tides, donc le morceau quand même le plus connu des Outlaws sur le premier album.
We'll be right back. lead me by your soul, then set me free. Those who do believe in love, this time will be your key. Time and time again, I'm thankful for a peace of mind. I hope I find myself amongst the music and the rhyme that enchants you there.
Green grass and high tides forever. Castles and stones sold in glory. Lost faces say we adore you. As kings and queens bow and pray.
Thank you.
Ah, effectivement, ils en ont plutôt rajouté.
Ça, c'est sûr. Mais c'est ça qui fait le plaisir de la chose. Donc, Green Grass and High Tides, un grand moment de guitare sur le premier album des Outlaws.
Où en étions-nous ? Bon, on va être plus modeste avec le deuxième album un peu oublié des British Lions. Alors, qui étaient les British Lions ? Tu te rappelles qu'après le départ de Ian Hunter, Mott D. Hoople est devenu Mott, avec de nouveaux membres. Ça a duré deux albums. Et puis, le chanteur qu'ils avaient reparti, ils en ont réembauché un autre et c'est devenu British Lions. Et finalement, British Lions, ça avait été un peu revitalisé hein, par l'arrivée de leur... alors, je ne sais plus lequel était le nouveau.
Le premier album de Mott était pas mal, quand même.
Ouais, 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 le premier album de Mott, ça s'écoutait aussi. Donc, John Fiedler, comme son nom ne l'indique pas, au chant, et puis Ray Major, qui lui devait être déjà dans Mott, à la guitare. Et donc, on va s'écouter. Alors, donc ils ont fait un premier album qui a eu un succès modéré, puis le deuxième a été pendant longtemps retardé par la compagnie de disques, qui est sorti finalement, je crois, en 80 au départ, et a été un peu oublié. Mais ça vient d'être réédité cette année, en 2025, par Think Like a Key, qui est un label assez audacieux, qui a une politique en particulier de réédition un peu tous azimuts, de beaucoup de choses. Et donc, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Lay Down Your Love. Bon, bah, les paroles, comment dire, ils n'avaient pas trop innové. Mais ça avait une certaine énergie. British Lions.
Ladies and gentlemen, gather round for your share of that good red liquid. And upon drinking your fill, may I advise you all to lay down your love.
Lay down your love, lay down with me. I got love.
Lay Down Your Love, les British Lions. Le morceau a été coécrit par Overeem Watts, qui était le bassiste de Mudhoney Hoople tout au long de leur carrière. Donc il y a un petit côté, enfin on reconnaît un petit style Mudhoney Hoople. Faut dire quand même que Watts avait écrit un certain nombre de morceaux durant la carrière du groupe, hein, comme Born Late 58, ou des choses comme ça. Bon, alors petite maintenant rubrique. On a une rubrique à faire. Alors attends, il faut que je me démerde. Normalement, ça va marcher. Like a rolling stone. Ça arrive pas tout de suite. Like a rolling stone. Like the FBI and the CIA and the BBC. BB King and Doris Day.
Digging by Georgie Wonderful. And now we'd like to do Are the Angels Come.
Then we're going to do some more new ones.
Right. Ah ouais, il est en continu. L'enfoiré.
La rubrique Dig It, donc, bien sûr, avec le morceau des Beatles qu'on aura passé le plus souvent dans l'émission, c'est-à-dire depuis quelques années maintenant, toutes les semaines, pour annoncer donc la rubrique qui rend hommage à l'émission et au fanzine Dig It.
Le seul morceau qu'on aura passé plus souvent, presque dans son intégralité, c'est I'm a Little Dinosaur.
C'est sur Internet
Schwann, puisqu'il est dans notre jiggle de début et de fin.
Voilà, en recollant les deux bouts, ça fait presque le morceau entier. Mmh. Mais... et donc, on va s'écouter Electric Six. Donc, on a beaucoup passé, en tout cas, sur leurs premiers albums dans l'émission de Dig It. Gilda est un grand fan du premier, avec, tu sais, le tube Gay Bar, je ne sais pas si tu te rappelles, d'Electric Six, un groupe de Détroit, assez atypique quand même, avec un premier album très velu, une espèce de garage déjà un peu bizarre quand même, matinée par moments de dance presque, quoi, une espèce de truc très, très, très arbi. Et alors, sur le deuxième album, il reprenait Queen, Radio Gaga. Ouh, alors là déjà, tu vois, ça commençait à partir un peu dans tous les sens. Et puis c'est un groupe où il y a pas mal de synthétiseurs et qui a eu un énorme succès en Grande-Bretagne. Mmh. Et qui a continué une carrière qui continue encore. Le dernier album date de 2023, je crois. Dernier album studio. On parlera de celui qu'on va s'écouter là, qui est sorti un tout petit peu avant. Donc c'est un groupe aussi qui avait un lien assez particulier avec ses fans, notamment ils faisaient des espèces de concours où les fans devaient proposer des morceaux qu'ils devaient faire sur qu'ils devaient reprendre. Alors, il y avait des sortes, ils mettaient les fans à contribution, ils sortaient des disques que pour leur fan club, donc à des tirages très limités. Et alors, je ne sais pas quel est leur succès en ce moment, quelle est leur notoriété, disons. Ce n'est pas un groupe dont tu entends parler tous les jours et que tu entends à la radio. Hein. Mais je pense qu'ils ont toujours cette base de fans très fidèles. Les disques studio qui ont suivi le premier album, qui est magistral, sont plus inégaux quand même. Mais il y a toujours des bons morceaux, il y a toujours des moments un peu barrés, il y a toujours des guitares flamboyantes, parfois un peu trop de synthé, ça dépend. Et puis la voix du chanteur Dick Valentine, qui est quand même très particulière. Là, on va s'écouter un album relativement récent, ça date de 2021, c'est un album de reprise, qui s'appelle Streets of Gold, avec des choix éclectiques, hein. Ils reprennent Kiss, Alice Cooper, ça c'est pour nous, hein. Mais aussi In Excess, les Pixies, les Talking Heads, The Jam, Love, Tin Machine... Et dans des versions finalement relativement fidèles. D'ailleurs, il y a eu des chroniques de ce disque disant quoi ? Mais Electric Six, on attend autre chose quand même. On attend de la folie, on attend des trucs barrés et tout. C'est trop sage, c'est trop clean. C'est vrai que c'est des reprises assez fidèles de morceaux qu'ils ont voulu rendre hommage sans trop les déformer, on va dire. Donc là, on va s'écouter une reprise assez fidèle de Click Your Fingers, Uploading the Play de Rocky Erickson, qui est un des grands moments de ce disque donc. Electric Six de Détroit reprenant Rocky Erickson en 2021.
Turn on
Alors après Electric Six, on avait Yoko Ono, qui est le nom d'un groupe, alors, d'un groupe de punk bordelais contemporain, qui viennent de sortir leur deuxième EP, mais ça c'était sur leur premier EP, qui est sorti en 2024. Alors bien sûr, une reprise des Beatles, ils font pas que ça, hein. Mais comme Sylvain a une petite envie de Beatles là, qui a survécu au changement d'année.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
J'ai pensé que ça faisait un bon morceau dans la rubrique Digit, puisque Digit aussi surveillait l'actualité du rock qui se passe autour de nous.
Ah oui, oui, il y a beaucoup de groupes français.
Voilà. Alors, Yoko Ono n'est pas toujours aussi punk rentre-dedans que sur ce morceau ou sur les morceaux de son premier EP. C'est devenu un peu plus varié, toujours très rigolo et plein d'énergie. Si vous avez l'occasion de les voir, on ne sait jamais. Hein. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent à Bordeaux et puis peut-être qu'ils voyageront vers Toulouse un de ces jours. Je ne crois pas que c'est eux qui ont inventé la formule Yoko Ono. Ils l'ont vu quelque part et ils ont dit « Tiens, ça ferait un bon nom de groupe
!» C'est ce que pensent beaucoup de fans des Beatles, en plus.
Ah oui.
Eh bien, Maurice Bénin, maintenant, j'ai trouvé dans ce magnifique magasin de disques de Périgueux qui s'appelle la Démothèque, le troisième album de Maurice Bénin, « Je vis ». On en a déjà écouté des extraits, mais pas du vinyle, hein, sous forme de MP3, comme par exemple « Les contes sont bons », qui était ce morceau pseudo-folk sud-américain très rigolo et très revendicatif. En voilà un autre, revendicatif aussi, mais on ne sait pas trop de quoi en fait. C'est du Maurice Bénin pur jus, ça s'appelle « Sollicitation ». Signalons que sur ce disque, il a fait toute la musicalité et les textans. Et c'est ce disque dont la pochette s'ouvre là, une débauche de carton et de texte écrit à la main, toutes les paroles, je suis en train de le dépier dans le micro, admirer un peu avec des photos, des dessins, enfin c'est magnifique quoi.
Oui,
c'est une œuvre d'art.
Je sais que sur C'était en 1976, il y avait des dessins qui étaient... qui pouvait être impressionnant, sauf qu'évidemment, on ne les voyait pas vraiment, parce qu'ensuite, il y avait eu des taches de bleu, de jaune et de vert qui avaient été un peu éparpillées dessus, si je me souviens bien.
Celui-là est entièrement noir et blanc. Et c'est vrai que ce sont des pochettes absolument magnifiques.
Ah, en progressant, il avait peut-être gagné suffisamment de fric pour se payer l'impression en couleur.
Pour mettre un peu de couleur, voilà. Mais pour pas s'empêcher de faire des tâches abominables, évidemment. Voilà.
Parce que c'est des disques qui étaient essentiellement autoproduits par un moment.
Ah oui, c'est sur le label ABBA, ABA, avec Ben numéro 1 ou numéro 2, je sais plus.
Celui-là, c'est Ben numéro 2.
Ben numéro 2, voilà. Ouais. Voilà. Mais, on a déjà parlé, hein. Quarantaine d'albums et puis une grande réputation dans tout le milieu folk hippie un peu contestataire, et c'est un des gars qui a joué dans le fameux concert du Larzac devant plusieurs milliers de personnes, et par la suite il a continué sa carrière de manière toujours discrète mais avec des morceaux quand même qui étaient un petit peu rentrés dans le rang, disons qu'au niveau dernier c'était beaucoup moins délirant que ce qu'il faisait à ses débuts, mais toujours des choses tout à fait respectables. Maurice Bénin, donc là c'est les débuts et ça déconne à plein de tubes. Le morceau s'appelle Sollicitation.
Demandez Révolumania, le seul quotidien contrôlé d'extrême gauche qui en 16 leçons et un fusil vous enseigne la révolution.
Des voyages gratuits aux Baléares pour les 10 premières réponses, des porte-clés en vrac, des échanges franco-cubo-fédaïne. Vous, monsieur? Vous, madame? Qui ne voulait plus vous poser de questions inutiles? Qui voulait dormir en toute sécurité, bercé par une douce et langoureuse léthargie? Qui voulait...
Alors, UDRD, Union pour la défense des rutes déclarées. Solde rabais et pourcentage, réduction sur les fromages, dernier Sartre à consommer, on sacrifie les tout derniers jeûnés.
vacances avec vue sur la mer, baisse le prix des camemberts, livre de poche encaustiqué, malheureux chez les poésies truffées. Je sollicite de votre part une petite partie de temps perdu, même partiellement. Cinéma extra-politique, théâtre super engagé, porte-clé avec journaux gauchistes, le Che dans tous les supermarchés. Le sexe en 10 numéros gonflables, votre manoir, votre baraque, un droit sans mensualité, reportage sur les communautés. Je sollicite de votre pire la meilleure des captations pour me permettre de vous dire. C'est la virilité, hommes méditerranéens, c'est le plus bronzé, Occitanie, différent l'entrée, adhérer au front du FLB. Devenez une maman plaidine, combattez pour qui ravit, faites-vous le cul en combe et baisez avec une pointe vie. Devenez citoyen Ajax, combattez pour qui ravit, faites-vous un flic roi coup et dites-lui avec une tampax. Je sollicite de votre part une des sollicitations, une démobilisation, une remobilisation, une désintoxication, une déconnérisation, une des publicités qui-qui-qui-qui-cation, une des spectateurisations, une des micro-sessinidiasiations, une ré vo lu schlurps.
Ah ben écoute, la musicalité et les textances, ça se tenait.
c'est pas un fil quand même. La sollicitation Maurice Bénin, non, à ses débuts.
Bah écoute, on va se passer un petit peu de la compile là, Knuckle Girls volume 2 avec le Alison Marklow Band. J'avoue qu'il y a peu d'indications sur le disque et je ne suis pas allé chercher qui était Madame Alison Marklow, mais elle faisait en 75 un morceau qui s'appelait Midnight Rider, qui n'a rien à voir avec celui des Allman Brothers Band, bien sûr, comme toujours sur ce genre de compil, doit dégager une belle énergie. Alison Marklow Band, donc Midnight Rider.
Ride, go to
Midnight Rider, Alison Markle Band.
Eh bien, j'amorce la rubrique folk avec le groupe Comus, groupe britannique, qui a sorti deux albums. Le premier en 70 et le deuxième avec un line-up différent en 74. Et qui ont fini par se reformer, comme tout le monde, en 2000, dans les années 2000, après avoir été redécouvert grâce à un groupe obscur dont j'ai oublié le nom, qui les citait comme référence, une espèce de groupe qui avait une petite réputation, comme ça. Et les Comus, du coup, sont devenus aussi une espèce de groupe un peu culte, là. Tout ça, enfin, le nom de ce groupe, je l'ai découvert dans la BD Underground, volume 2. Tu te rappelles des merveilles que j'avais trouvées dans Underground, notamment les Yahoo 13 ou ce genre de trucs.
Ouais. Alors, bien. Les merveilles, bon.
Eh bien, dans Underground 2, il y aura sûrement aussi matière à découverte, même si ça part sur pas mal de types de musique qui m'intéressent un petit peu moins, à vrai dire. Mais c'est sûr qu'il y a de l'underground et du parcours atypique à l'appel. Et donc les Comus, c'était 6 musiciens. Hein. Et c'était du psychédélisme folk, ou du folk psychédélique. Extrêmement barré quand même, je l'avoue. Avec des thèmes de chansons autour de la chasteté, l'érotisme gothique, les martyrs chrétiens, la maladie mentale, le démon, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Écoute, un morceau qui s'appelle Diana, et qui a été repris par ce groupe obscur, mais culte, plus récent, dont j'oublie le nom, malheureusement, mais on reviendra peut-être. Donc là, c'est le groupe britannique Comus sur leur album First Utterance en 1970.
Thank you.
Comus, donc, un extrait de leur premier album, First Utterance. Et oui, alors effectivement, ils avaient quelque chose. Mais est-ce que c'était traitable ? Ça, je ne sais pas. Bon, mais c'est, je suis tout à fait prêt à continuer à explorer le groupe Comus. Hein. Et alors maintenant, il y a bien sûr quand même Jingle Fromage Cher, parce que on va se passer un petit fromage chèvre de bien de chez nous. En fait, après le psychédélique anglais, ce sera le joint français. Et on réécoute un peu les Sœurs Goadec, parce que le joint français, c'était une usine au départ à Bezons, dans la banlieue parisienne. Je ne sais pas comment on prononce, Bezons, enfin bref. Et Bezons. Donc peut-être pas Bézon, mais ils avaient décentralisé en ouvrant une usine à Saint-Brieuc en Bretagne, mais où les ouvriers étaient moins bien payés qu'à Paris, bien sûr. Ah, évidemment. Et puis il y a eu ces ouvriers qui étaient au départ une population d'employés relativement malléable. On finit par se syndiquer, faire des grèves, et puis il y a eu une grève assez longue, assez dure, en 1972, qui est considérée comme un marqueur dans l'histoire de la Bretagne. Je n'ai appris ça que récemment, n'étant qu'assez peu breton moi-même, faut vous en douter. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que Kerjuel, chanteur breton qui n'était pas encore très connu à l'époque, a fait une chanson qui s'appelait « Le joint français ». En soutien de la lutte, qui est sorti dans cette EP de 4 morceaux de chanteurs bretons engagés, dont on vous a déjà passé des extraits, qui s'appelle Underdrung Disco Canard 1. Il y avait Kerjuel, Michael, Arbats et Gueltaz. Bon, Gueltaz, on connaît, hein, il a fait du folk psychédélique de plus bello. Kerjuel, c'est un peu plus du protest song. Et on va s'écouter de rechef le joint français. Mais avant ça, on vous rappelle que Bébé Dinosaure, c'est tous les dimanches de 21h30 à 23h sur les 92.2 MHz de Canal Sud. C'est rediffusé 8 jours après, les lundis de 15h30 à 17h. Ça se retrouve partout dans le monde en direct ou en MP3 téléchargeable ou streamable sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, vous pouvez retrouver Bébé Dinosaure en cherchant les Bébés Dinosaures sur Facebook, si vous avez la malchance d'être abonné à Facebook. Notre dernier morceau, le joint français par Kerjuel.
Beaucoup de jeunes et de femmes qui ont occupé le 13 mars voulaient que les ouvriers soient uniformément augmentés, voulaient que les ouvriers soient uniformément augmentés. Au joint français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Au joint français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Les gardes mobiles ont rappliqué, la colère d'un ton a monté. Rien d'étonnant alors qu'après, le directeur soit séquestré. Rien d'étonnant alors qu'après, directeur soit séquestré. Au joint français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Au joint français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Paysans venus ravitailler, lycéens par solidarité, ouvriers de Sambre-et-Meuse, de Mafarde, de Chapoteau, on ne travaillera pas le fusil dans le dos. Ouvriers de Sambre-et-Meuse, de Mafarde, de Chapoteau, on ne travaillera pas le fusil dans le dos. Au joint français,
français, aux joints français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Aux joints français, aux joints français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Contre le patronat pirate, on crie dans la rue occupée. Contre les puissants qui nous pillent, la grève au cœur de la Bretagne. Contre les puissants qui nous pillent, la grève au cœur de la Bretagne. Aux joints français, aux joints français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Aux joints français, aux joints français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Les barres patrons d'Hydruez, et quels sont mes pépcorn arbreaux, Faraud Breton, net Faraud Breton, net Faraud Breton, net.
Come back. I want him to come back.
Don't go away.